jour, de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Antonio Fischetti.
Chers auditeurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour une question qui est au cœur de toutes celles que nous nous posons dans cette émission. Qu'est-ce qui fait la particularité de la science ? Sa force, sa beauté, mais aussi parfois sa fragilité. Pourquoi tant d'idées fausses à son sujet ? Il est normal que la science fasse l'objet de débats. Les scientifiques peuvent aussi se tromper. Certains s'expriment dans un domaine qu'ils ne connaissent pas et d'autres se fourvoient par intérêts financiers. Mais depuis la pandémie de Covid-19, on assiste à une explosion de fausses informations, de confusions ou de critiques parfois légitimes, mais aussi parfois totalement déplacées, voire malhonnêtes. Comment faire le tri ? À qui faire confiance ? Pourquoi une théorie scientifique n'est-elle pas une idée comme une autre ? Quels arguments opposer à ceux qui rejettent la science ? Autant de questions auxquelles nous allons chercher des réponses avec notre invitée Annabelle Crémer-Lecointre. Bienvenue. Annabelle Crémer-Lecointre, bonjour.
Bonjour Antonio Fischetti, bonjour à tous et à toutes.
Vous êtes enseignante en sciences de la vie et de la terre et autrice de plusieurs ouvrages pour les jeunes et pour un très large public. Vous avez notamment publié « Femmes de science » aux éditions de la Martinière Jeunesse. Et vous venez de publier un livre intitulé « La science à l'épreuve des mauvaises langues » chez Delachaux et Niestlé, avec des illustrations de Arnaud Raphaëlian. Donc dans cet ouvrage, vous prenez 10 idées reçues sur la science, donc 10 idées reçues, donc par exemple une théorie scientifique, ce n'est qu'une idée, les scientifiques se trompent, on ne peut pas leur faire confiance, les experts scientifiques sont tout puissants et corrompus, la science est la bombe atomique, voilà ce genre de questions, donc des questions auxquelles vous répondez. Alors comment vous les avez choisies ces questions ? Est-ce que cela correspond à des critiques de vos élèves en collège ? Est-ce que cela correspond à des choses qu'on entend sur Internet, dans la vie de tous les jours, au supermarché ?
J'en ai retrouvé des idées reçues dans la tête de mes élèves. Bien sûr, la théorie, ça n'est qu'une idée ou une hypothèse. C'est quelque chose qu'on veut absolument prouver. Donc oui, c'est ce qui m'a inspirée. Et puis aussi, il y a eu la pandémie de la Covid-19 et où j'ai entendu beaucoup de choses à propos de la science. Beaucoup de gens s'exprimaient pas forcément en connaissance de cause. Et moi, j'avais envie de parler de la science de façon un peu plus complète et plus complexe peut-être, hein, de la montrer sous ses différents aspects.
Donc c'est un livre pédagogique pour expliquer ce qu'est une démarche scientifique. Vous avez voulu sans doute réhabiliter les scientifiques à une époque où ils sont remis en question, souvent à tort justement.
Oui, exactement. C'est un livre pédagogique qui permet de s'attacher à la question du fonctionnement de la science plus que de ses résultats. On parle beaucoup de ses résultats, mais on n'explique pas de manière pédagogique comment les scientifiques en fait savent ce qu'ils savent.
Pour commencer dans cette plongée au cœur de la démarche scientifique, écoutons cette actualité d'Europe 1 qui faisait état d'un sondage IFOP pour la fondation Reboot et la fondation Jean Jaurès. Un sondage de 2023 sur le rapport des jeunes à la science.
Seul un jeune sur trois pense que la science fait plus de bien que de mal à l'humanité. Il y a 50 ans, ils étaient encore 55%. Autre enseignement, les 18-24 ans adhèrent plus facilement qu'avant aux vérités alternatives. Exemple, un jeune sur six pense qu'il est possible que la Terre soit plate, un sur cinq que des extraterrestres ont bâti les pyramides d'Égypte et certains remettent en cause la théorie de l'évolution. On écoute tout de suite François Crosse qui est co-auteur de l'étude.
À cause des réseaux sociaux, aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus exposés à tout un ensemble de contre-discours scientifiques qui sont nettement plus imprégnés de théories complotistes.
Et enfin, donc, dernier fait édifiant, près d'un jeune sur deux fait confiance à une information quand elle est produite par un influenceur qui a beaucoup d'abonnés.
Annabelle Crémer-Lecointre, est-ce qu'il vous étonne ce sondage qui dit par exemple qu'un jeune sur six croit que la Terre est plate et que beaucoup de jeunes ne font pas confiance aux scientifiques ?
Non, il ne m'étonne pas tellement parce qu'aujourd'hui, on sait que le premier moyen d'information pour les jeunes, c'est la toile. Hein. Et sur la toile, on trouve beaucoup de choses. On trouve pas seulement des savoirs, on trouve des croyances, on trouve des opinions. Et c'est très difficile pour les jeunes de faire le tri. En fait, il faut leur apprendre à faire le tri. Et je pense que c'est déjà à l'école qu'il faut leur apprendre ça.
Oui, faire le tri, c'est-à-dire aujourd'hui, hein, enfin, disons, cette confusion entre science et pseudo-science, croyances, etc., ne date pas d'aujourd'hui. Mais c'est de plus en plus difficile puisqu'on peut avoir énormément de sites qui racontent des choses fausses et puis à côté, un site scientifique qui va être noyé dans la masse. Donc, parmi les chapitres que vous abordez, il y en a un d'actualité qu'on a entendu, critique qu'on a entendu très souvent à propos de la pandémie de Covid, les scientifiques sont corrompus. Alors, il est vrai que certains peuvent l'être. On a vu défiler des experts qui peuvent être en lien avec des laboratoires pharmaceutiques. Alors, comment vous avez voulu démonter cette idée reçue que tous les scientifiques seraient forcément tous corrompus ?
C'est vrai qu'on a toujours tendance à retenir ce qui ne marche pas. Et donc, des experts véreux, malhonnêtes, c'est sûr, il y en a. Je donne quelques exemples dans mon livre pour toutes sortes de raisons, hein, rationnelles, irrationnelles. Parfois, c'est de la mégalomanie. Parfois, c'est l'appât du gain, mais ils sont quand même minoritaires. Et il faut savoir qu'un expert scientifique, il n'est pas aux manettes en réalité, ce n'est pas lui qui décide, il répond à une commande.
Mais qu'est-ce qu'on appelle expert scientifique parmi ceux que vous citez justement dans vos livres qui peuvent être critiquables à juste titre ?
Les experts qui sont malhonnêtes, vous voulez dire ?
Oui, par exemple, oui.
Alors, des experts malhonnêtes, je donne l'exemple, par exemple, de Frédéric Zeitz, qui était un physicien et qui a été récupéré par l'industrie du tabac pour noyer les preuves, ou en tout cas semer le doute sur la dangerosité du tabac. Tout ça pour reculer, en fait, les lois anti-tabac. Donc, lui, c'était clairement l'appât du gain. Hein. Il a touché une rémunération. Après, on peut citer aussi le cas de Jacques Benveniste et la mémoire de l'eau. Hein.
Oui, rappelez en quelques mots de quoi il s'agit.
Alors, Benveniste était un biologiste et puis qui avait quand même une solide réputation d'expert. Alors, quand il parle de la mémoire de l'eau, c'est pas à titre d'expert qu'il le fait, mais il utilise sa notoriété. Et il va publier, il va demander à ce que soit publié un article sur la mémoire de l'eau, qui est l'effet persistant d'une molécule dans l'eau, alors que ces molécules ne s'y trouvent plus. Hein, et en fait, avant même que son travail ait pu être évalué par les pairs, donc par d'autres scientifiques. Donc il fait cette annonce fracassante en 1988. Et il se trouve qu'il a un contrat, en fait, avec le laboratoire d'homéopathie Boiron.
Il ne l'avait pas dit ouvertement,
oui.
Il l'avait caché.
Ouais, exactement. Et puis après, pendant 2 ans, il y a des contre-expertises qui vont se multiplier et qui vont montrer en fait que ces expériences ne sont absolument pas reproductibles. Après, on peut aussi citer le cas de Didier Raoult. Hein,
oui, bien sûr, beaucoup plus d'actualité.
Beaucoup plus d'actualité. Et il faut savoir que Didier Raoult, c'était... En fait, c'est un expert malhonnête parce qu'il voulait augmenter sa visibilité et sa notoriété. En fait, depuis les années 80, il y a une politique de réorientation des financements de la recherche qui sont fondées sur, on va dire, une évaluation comptable. En gros, plus une institution publie, plus elle se voit dotée de fonds publics ou privés. Et il était à la tête de l'IHU, il le savait très bien. Il faut quand même savoir que Didier Raoult, il a co-signé plus de 2000 publications dans sa carrière, ce qui est rigoureusement impossible.
Oui, c'est tout à fait impossible. Quelqu'un qui écrirait jour et nuit mais ne pourrait même pas faire ça. Alors comment il s'arrange ? Alors il co-signe des publications, des travaux effectués par ses étudiants ?
Oui, ou par exemple, ça peut consister à diviser une publication en 3 hein, ou en 4, par exemple, ou alors signer des publications qui sont de piètre qualité.
Oui, mais alors quand il s'est fait connaître donc à propos de la pandémie de Covid et son remède miracle qui n'a jamais fonctionné, hein, l'hydroxychloroxine, mais auparavant il était quand même reconnu par ses pairs puisqu'il a eu quand même des postes prestigieux. Est-ce que il a été sérieux et à un moment donné il a vrillé par rapport du gain ou du succès simplement de la notoriété, même
oui,
ça oui, rapporte
pour
pas d'argent.
Augmenter effectivement sa notoriété. Évidemment, tout n'est pas acheté dans la carrière de Didier Raoult. Hein. Il a été compétent. compétents, notamment sur des, sur, en bactériologie, dans le domaine de la bactériologie. Mais après, effectivement, il a dévié. Hein, c'est, on pourrait appeler ça un dévoyé de la science. Et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'au moment de la pandémie de Covid-19, il y avait déjà plusieurs... plusieurs contrôles qui avaient été rendus publics et qui faisaient état de manquements gravissimes, en fait.
Oui, bien avant même qu'on parle du Covid. Donc là, ce que vous dites dans votre livre, c'est qu'effectivement, il ne faut pas nier ces brebis galeuses, mais tous les scientifiques ne sont heureusement pas à mettre dans le même panier. Et c'est un peu ça aussi le problème, c'est-à-dire au motif qu'il existe effectivement des brebis galeuses dans la communauté scientifique, on met tout le monde, le grand public, parfois, à juste titre, a du mal à faire le tri.
Exactement, on met tout le monde dans le même sac et on oublie surtout que l'expert n'est jamais un décideur ou une décideuse quand il s'agit d'une experte. Encore une fois, ce sont les commanditaires qui décident. Et parfois, c'est une position très inconfortable parce que l'expert, il peut être instrumentalisé. D'ailleurs, c'est même pas sûr que l'expertise qu'il va rendre va être utilisée.
Mais ces commanditaires, ça peut être des laboratoires pharmaceutiques, par exemple, mais ça peut être aussi la recherche publique, puisque tous les scientifiques ne sont pas forcément financés par des laboratoires ou des intérêts privés. Il y a des chercheurs qui travaillent pour faire avancer la connaissance.
Oui, oui, l'expertise, elle peut... En général, ce sont des professionnels, mais ils peuvent œuvrer dans le domaine public ou dans le domaine privé. Les commanditaires, ça peut aussi être les politiques, par exemple.
Mais cela ouvre aussi cette question très importante du doute, puisque donc, il est normal de douter. La démarche scientifique consiste à douter de tout, a priori, alors tout remettre en question, contrairement à ce que certains peuvent croire, ce n'est pas une vérité absolue, c'est sans arrêt remis en question. Mais en même temps, on ne peut pas douter de tout en permanence. Donc ce doute, il doit être donc approché d'une façon équilibrée.
Oui, il doit être modéré quand même. C'est Wittgenstein qui disait pour que ma porte tourne, il faut que les gonds soient solides. Donc il faut quand même qu'il y ait quelques certitudes, entre guillemets. On peut pas, c'est un doute modéré, on peut pas tout...
Oui, qui disait ça donc,
C'était Wittgenstein qui disait ça. Et c'est vrai que...
Donc il faut des bases auxquelles s'accrocher.
Exactement. Par exemple, les scientifiques, ils ne vont jamais douter du fait qu'il est impossible pour un humain de traverser les murs, ou qu'un humain est mortel, ou qu'on ne peut pas déplacer des objets par la pensée, parce qu'on ne peut pas créer de l'énergie à partir de rien du tout.
Mais ce qui fait qu'on peut avoir confiance quand même, disons, dans certaines publications scientifiques, c'est la réputation, mais pas simplement, puisqu'on peut avoir aussi des gens qui ont une bonne réputation qui se trompent. C'est le crédit qu'on peut accorder à telle ou telle parole. Comment est-ce que le grand public peut se retrouver là-dedans? Quels sont ses repères?
C'est vrai qu'il faut vérifier la compétence en fait de celui ou de celle qui s'exprime. Alors après, parfois, il y a des gens qui ont été compétents à un moment donné de leur carrière et puis qui dévient et qui sont mis en avant de façon médiatique. Mais la grande majorité des scientifiques qui font leur travail au quotidien sont des gens fiables. Et ils sont fiables pourquoi? Parce qu'ils travaillent de manière collégiale. Ils passent leur temps quand même à vérifier les travaux de leur père.
C'est ça qui fait la validité, c'est-à-dire c'est la caution de cette communauté scientifique. Donc vous pouvez rappeler comment fonctionne la communauté scientifique, c'est-à-dire un chercheur, il écrit une publication et ensuite, eh bien, il faut que ces résultats puissent être reproduits par d'autres chercheurs partout dans le monde. C'est cette, disons, validation de la communauté en tant que telle qui fait qu'un résultat est admis ou pas.
Exactement, et qu'il est plus ou moins fiable. Mais il faut effectivement que un énoncé scientifique, que ce soit un fait, un savoir ou une connaissance, soit validé par la communauté scientifique, vérifié, reproduit. Et donc, pour aboutir à un consensus, c'est-à-dire qu'une majorité de scientifiques reconnaissent la qualité du travail et la validité du travail, bah, c'est un processus qui est long, en fait, et très exigeant.
Oui, c'est ça, c'est ce consensus. Donc, écoutons René qui chante « I wanna be like Madame Curie », grande scientifique que vous connaissez bien.
My friends think it's boring when I wanna go exploring the particles and elements, the building blocks of life. But give me a microscope and 2 ounces of hope, and we just might make science history. I wanna be like Madame Curie when I grow up. stuff. Just like Madame Curie. She was a professor, the first woman ever in Paris at the university. It's not easy to discover what Madame had uncovered, polonium and radium that others could not see. So she took a microscope and 2 ounces of hope and found the theory of radioactivity. I wanna be like Madame Curie when I grow up. Explore the world that's always twirling and other stuff. Just like Madame Curie.
Autour de la question « Pourquoi tant d'idées fausses sur la science ?» Nous sommes avec Annabelle Kremer-Lecointre pour son livre « La science à l'épreuve des mauvaises langues ». Donc Annabelle, dans l'un des chapitres de votre livre, vous posez la question « Alors, tout le monde a son mot à dire sur la science. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser ?» Puisque nous sommes en démocratie, tout le monde peut avoir son mot à dire sur n'importe quel sujet, sur la science aussi. Mais en même temps, donc c'est légitime d'avoir quelque chose à dire là-dessus, mais en même temps, c'est dangereux. Puisque tout le monde ne peut pas forcément connaître à fond n'importe quel sujet. Donc comment se positionner par rapport à ce désir démocratique d'avoir quelque chose à dire et en même temps, bien, il ne faut pas dire n'importe quoi quand on parle de science.
Vous avez tout à fait raison. En fait, il faut bien distinguer égalité en droit d'expression et égalité en légitimité d'expression. Il y a un exemple que je reprends souvent, par exemple sur la question de la transition environnementale, écologique, énergétique, par rapport aux changements, enfin, qui sont des conséquences en fait du changement climatique actuel. Là, évidemment que les citoyens ont le droit de s'exprimer, et même ils sont légitimes, totalement légitimes, puisque ce sont des choix politiques et donc il faut qu'il y ait un débat démocratique. Par contre, sur la question de l'évaluation du changement climatique et de ses impacts, ça va pas être soumis au débat public. C'est une affaire d'experts qui sont légitimes parce que compétents sur ces questions.
Et quand on est citoyen et qu'on veut s'exprimer, il faut déjà commencer par s'informer. Et là aussi, c'est un problème. Vous parlez de ce qu'on appelle l'effet de cascade d'information. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Oui, alors il y a énormément de biais cognitifs que cite d'ailleurs Gérald Bronner dans La démocratie des crédules.
Oui, le sociologue Gérald Bronner.
Voilà,
oui.
et donc ils font que quand on est en manque comme ça d'informations, on va souvent se fier aux personnes dont on suppose qu'elles savent. Il y a aussi dans le débat souvent une course à l'échalote qui conduit à prendre des mesures beaucoup plus radicales que ce qui aurait été envisagé au départ. Donc attention, le débat peut être biaisé par un ensemble de biais cognitifs qu'on a toutes et tous, hein, y compris les scientifiques, mais il faut en avoir conscience.
Oui, mais cet effet de cascade d'informations, vous dites, c'est-à-dire on imite ceux qui semblent savoir. Quand on va sur Internet, il y a des gens qui semblent savoir, mais qui ne sont pas forcément ceux qui en savent le plus. Et ceux qui en savent le plus, ceux qui sont les spécialistes, parfois ils sont beaucoup plus discrets, beaucoup plus modestes, et puis tout simplement, ils n'ont pas forcément le temps de publier sur Facebook, Twitter, etc. Puisqu'ils travaillent dans leur laboratoire. C'est ça aussi le problème. La visibilité n'est pas proportionnelle au degré de connaissance.
Et oui, la désinformation, elle circule plus vite, malheureusement, que les savoirs. Et puis, souvent, les gens qui ont la compétence, effectivement, sont plus discrets, ce que vous disiez, et ce qu'Étienne Klein appelle l'ultra-crépidarianisme.
Oui, de quoi s'agit-il? Ultra-crépidarianisme, c'est un mot un peu compliqué, mais finalement, qui n'est pas si nouveau que ça. Hein. Un terme popularisé par le physicien philosophe des l'instant, c'est Étienne Klein, que nous connaissons bien ici, mais qui est l'art de prendre la parole pour s'exprimer sur un sujet qu'on ne connaît pas.
Exactement. Moins on en sait sur un sujet, plus on va prendre la parole et avoir de l'assurance. Alors que les gens qui ont plus de connaissances sur un sujet ont bien mesuré en fait la difficulté et la complexité. Ils ont tendance à être prudents, hein, à ne pas affirmer comme ça des certitudes absolues.
C'est-à-dire si on voit par exemple sur un sujet, que ce soit le Covid ou n'importe quel autre sujet, 10 pages internet ou 10 sites, c'est pas parce qu'ils sont beaucoup plus visibles que la parole est plus crédible qu'un autre site plus sérieux qui lui va être beaucoup plus discret. En fait, c'est ça qu'il faut prêter attention.
Oui, dites, hein. Et puis souvent on a tendance à penser qu'en ayant lu 2 pages sur un site internet, on devient expert sur une question. Et faut savoir que le marché de l'information sur la toile, il est structuré de manière extrêmement pernicieuse. C'est-à-dire que on va avoir tendance à être confronté plutôt à des informations qui vont conforter nos opinions. Hein, encore, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Mais ça, c'est lié aux bulles de filtrage, c'est lié.
Oui, c'est-à-dire, expliquez-nous comment ça fonctionne. C'est-à-dire, si on pense, par exemple, que les vaccins ne sont pas efficaces, on va aller sur des sites qui confortent ce qu'on pensait au préalable, ou bien les algorithmes vont aussi nous envoyer, malgré nous, inconsciemment, sur ce genre de site.
Oui, en fonction de ce qu'on va taper dans les comme mots-clés dans les moteurs de recherche. Et puis, il faut aussi savoir que les sites, ils sont classés non pas en fonction de leur pertinence, mais en fonction de leur popularité. Donc, c'est piégeux.
C'est-à-dire, on va voir apparaître des sites qui considèrent que les vaccins ne sont pas efficaces parce qu'ils sont plus populaires et on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus nombreux, donc beaucoup plus crédibles, c'est ça. Et on n'est pas au courant du fonctionnement des algorithmes qui sont derrière.
Exactement.
Alors, ce qui est très important, c'est la démarche scientifique. Qu'est-ce que c'est la démarche scientifique? Donc, dans votre livre, hein, vous abordez par exemple cette idée reçue, il n'y a pas d'expérience. S'il n'y a pas d'expérience, ce n'est pas de la science. C'est quelque chose que vous entendez souvent dire, par exemple, de la part de gens qui nient la théorie de l'évolution, par exemple.
Oui, et puis même de la part d'élèves qui ne vont même pas se rendre compte que, par exemple, l'histoire est une science. Mais ça nous vient, du XVIIe siècle, où l'expérimentation fait son entrée fracassante en science, si bien qu'on parle de science moderne, hein, par opposition à la science classique des penseurs grecs, et on va un petit peu ériger l'expérimentation en modèle. D'ailleurs, même dans la tête de beaucoup de gens, il y a les sciences dures, d'un côté, les sciences expérimentales, la physique, la chimie, la biologie, auxquelles on associe les maths, parce que pour expérimenter, il faut mesurer, donc on associe les mathématiques. Et puis à côté, il y aurait des sciences molles, hein, les sciences humaines, les sciences sociales, l'économie.
Voilà. Oui, mais en fait, il ne faut pas forcément faire une expérience, mais il faut montrer un résultat. Faire de la science, c'est pas simplement avancer une idée. Il faut qu'on puisse mettre en place soit une expérience qui montre que cette théorie est vraie ou fausse, ou bien une observation, c'est ça que vous voulez dire. C'est-à-dire, oui, il n'y a pas forcément de l'expérimentation, mais si ça n'est pas de l'expérimentation, ça peut être de l'observation, par exemple, pour la théorie de l'évolution. On va découvrir tel ou tel fossile.
Même si après, la théorie de l'évolution, elle a pu être expérimentée en laboratoire, hein, sur des espèces à temps de génération court.
Ou ce genre de choses, mais on ne va pas faire évoluer des baleines.
Exactement. Mais en fait, la scientificité d'une discipline, c'est pas le fait qu'elle expérimente ou pas. Ça tient à la possibilité qu'ont d'autres scientifiques en fait de reproduire la démarche. Donc en histoire, qu'est-ce qu'on fait? On recherche des traces, des indices du passé. Ça peut être, des manuscrits, des peintures, des poteries, pour essayer de reconstituer un scénario plausible de ce qui a pu se passer. En sciences sociales, par exemple, on peut mener faire un recueil de témoignages, tout ça peut être reproduit par d'autres scientifiques. Donc ça, c'est la première chose. C'est le fait que cette mise en cohérence des indices qu'on aura trouvés peut être reproductible. Et puis, les sciences humaines, comme les sciences sociales, elles sont ouvertes à la critique. C'est-à-dire qu'on peut toujours remettre en question, réfuter, améliorer ou corroborer le travail qui a été fait.
Et ce qui fait la démarche scientifique, c'est le fait qu'on puisse, par exemple, émettre une hypothèse et ensuite dire si mon hypothèse est vraie, il devrait se passer ceci, si elle est fausse, il devrait se passer cela. Et notamment en astrophysique, hein, on ne va pas faire des expériences avec des planètes ou des étoiles, mais si une théorie est vraie, on peut dire, par exemple, voilà, la comète va réapparaître dans tant ou tant d'années. Et si elle réapparaît, effectivement, ça sera une confirmation. Donc, c'est une observation dans ce cas.
Exactement. On peut aussi faire des observations. On ne peut pas générer des comètes en laboratoire.
Et c'est ce qui fait la différence entre une science, une vraie science, et une pseudo-science qui est simplement une affirmation, mais qui n'est pas démontrable.
Qui n'est pas étayée et puis souvent, qui n'est même pas testable, en fait. Parce qu'en science, l'idée, c'est de
faire... Par exemple, une affirmation qui ne serait pas testable.
je ne sais pas, moi, la particule qui est à la base de l'intelligence interaction gravitationnelle qu'on n'a toujours pas trouvé, ou dire par exemple que ce serait un fantôme ou que ce serait, je ne sais pas moi, un ange, ou ça c'est absolument pas testable. Donc voilà. on fait des hypothèses en science sur des entités qui sont matérielles évidemment parce que testables.
Oui, et les pseudosciences sont faites de théories non testables, justement.
Souvent d'hypothèses qui sont non testables ou d'hypothèses qui sont là pour conforter la théorie et pas pour expliquer, en fait, la théorie.
Écoutons l'astrophysicien Alain Riazzuolo, qui était au micro de Catherine Leroux, donc autour de la question la semaine dernière, et qui faisait part de la difficulté de faire passer les messages scientifiques.
On a les moyens aujourd'hui de ne pas être ignorant et finalement, voir que des gens rejettent des résultats qui étaient connus quand même depuis la Grèce antique. Hein, le fait que la Terre est ronde, ça a été démontré de façon limpide par Aristote il y a 24 siècles. Donc ça évidemment, ça chagrine beaucoup. Mais ça dit peut-être que, oui, en science, il ne suffit pas d'énoncer un résultat. Parce que si vous annoncez un résultat, finalement, vous demandez à vos interlocuteurs de vous croire sur parole. Il faut expliquer comment on est arrivé là. La science se comprend d'autant mieux qu'on comprend comment elle s'est peu à peu construite.
Donc c'était l'astrophysicien Alain Riazzuolo au micro de Chantal Leroux, hein, qui nous parlait justement de ces difficultés alors, à faire comprendre ce qu'est une théorie scientifique. Ça vous évoque quoi, ce genre de réflexion
Mais je ne peux être que d'accord avec ce qui vient d'être dit. Expliquer la science et expliquer comment elle fonctionne pour montrer en fait qu'elle est digne de confiance. Et effectivement, une théorie en science, c'est ce qu'il y a de plus étayé, c'est ce qu'il y a de plus solide, parce que ça rassemble. Moi, je donne cette image dans le livre d'un grand puzzle qui rassemble un grand nombre de faits, d'observations, d'hypothèses, de lois. Alors peut-être la théorie, elle est peut-être pas encore complète. Il manque des pièces au puzzle, mais ça n'empêche pas de deviner en fait le dessin de ce puzzle.
Est-ce que vous avez beaucoup de contestations de la science en classe parmi vos élèves? Vous avez quel âge parmi vos élèves?
Alors mes élèves, ils ont entre 13 et 14 ans. Oui, j'en ai parce que évidemment j'enseigne les sciences de la vie et de la Terre. Donc c'est quand même une discipline où il peut y avoir pas mal de contestations sur la théorie de l'évolution, sur le fait que l'humain est un animal. En histoire aussi, mes collègues ont des contestations, le négationnisme de la Shoah. Moi, en sciences de la Terre, j'ai aussi des climato-sceptiques, j'ai aussi des anti-vax. Voilà, donc tout ça, on en discute ensemble. Et puis après, j'essaye de leur montrer qu'est-ce qui influence, en fait, quelles sont les idéologies, en fait, derrière, qui les influencent.
Et ça se passe bien, en général, vous arrivez à les convaincre?
Mais oui, parce que, j'essaye de faire... souvent, c'est en quatrième que je mène ce travail de 2 heures sur la distinction entre un savoir, une croyance et une opinion. Et en fait, je leur explique pourquoi, en classe, à l'école, on a décidé d'enseigner des savoirs et non pas des opinions et des croyances.
Alors, qu'est-ce que vous diriez, par exemple, pour nos auditeurs en une phrase, un savoir, une croyance, une opinion? Qu'est-ce qui différencie ces trois concepts?
Alors de manière assez très très schématique, très peut-être très simpliste, mais ça marche bien avec mes élèves. Un savoir, en fait, il est énoncé collectivement et puis il doit
se justifier. Par exemple, la Terre est ronde.
Voilà. Et il doit se justifier, c'est-à-dire qu'il faut amener des preuves tangibles. Une croyance, elle peut être personnelle ou elle peut être collective s'agissant des croyances religieuses, mais elle se passe de justification. Elle est fondée sur l'autorité et la confiance.
Voilà, on ne peut pas montrer ou démontrer que Dieu existe ou n'existe pas. C'est
voilà,
une affaire
personnelle. Exactement. Et puis, en tout cas, ça ne peut pas être confronté au réel. Hein. Ça n'est pas testable. Une opinion, c'est déjà un petit peu plus subtil. En fait, une opinion, elle se nourrit un peu de tout. Elle peut être partiellement justifiée quand elle se fonde sur des savoirs, mais elle se nourrit aussi de nos émotions, de nos valeurs. Voilà, il faut prêter un petit peu attention.
Oui, par exemple, je suis plutôt de gauche ou de droite, c'est une opinion. Mais oui. Ce n'est pas la même chose que de dire la Terre est ronde ou elle est plate.
Exactement. Et en plus, elle peut changer l'opinion. Vous voyez, alors qu'un savoir, en principe, quand on parle de connaissances très étayées, établies depuis longtemps, il y a quand même peu de chances pour qu'on remette en question le fait que la Terre soit ronde.
Il y a une critique qu'on peut faire, enfin qu'on entend souvent à l'égard de la science, de certaines théories scientifiques, c'est que justement, il ne s'agit que de théorie, comme si ce mot de théorie était péjoratif, c'est-à-dire que c'était une idée, une opinion qui n'était pas étayée. Et précisément, dans votre livre, vous avez un chapitre consacré à cela, « Une théorie scientifique, ce n'est qu'une idée ».
Oui, c'est un petit peu dans le langage courant, quand on dit j'ai ma théorie sur la question, on a l'impression que c'est une idée, une vague idée comme une autre. Alors qu'en science, ça correspond justement à ce qu'il y a de plus solide. Et il y a des critères, en fait, pour ça, de scientificité. Une théorie scientifique, il ne doit pas y avoir d'erreur de logique, par exemple. Alors, ce n'est pas une logique propre à la science. On peut avoir un raisonnement logique dans son quotidien. Mais enfin, elle doit être dépourvue d'erreurs de logique. Il y a tout un principe aussi d'économie d'hypothèses, ce qu'on appelle la parcimonie.
C'est-à-dire, quand on a besoin d'une hypothèse, on n'a pas besoin d'en faire deux ou trois
voilà,
ou 50.
On n'en rajoute pas inutilement d'autres, qui sont ce qu'on appelle des hypothèses ad hoc, qui vont être là juste pour soutenir la théorie, mais qui ne vont rien apporter, rien expliquer.
Oui, mais la théorie, c'est donc ce qui peut... prédisposé à la découverte aussi, puisque si on a une idée de ce qu'on va trouver, on a beaucoup plus de chances de la trouver. Mais en même temps, vous dites que la science, la démarche scientifique, ce n'est pas forcément prouver quelque chose qu'on a déjà en tête. C'est le confronter au fait et on peut après trouver des éléments qui vont remettre en question la théorie et puis la faire avancer. Mmh. Précisément, ce n'est pas quelque chose de figé, une théorie.
Oui, exactement. Et puis en fait, c'est le mot prouver dans un premier temps qui me gêne, l'idée que des scientifiques, ils auraient une idée préconçue en tête et qu'ils chercheraient à tout prix à montrer qu'elle est juste. En fait, une hypothèse, en science, on la teste. Ensuite, on amène les preuves, effectivement, qu'elle a passé avec succès ses tests. Mais d'ailleurs, une hypothèse qui serait fausse, c'est aussi tout aussi intéressant, en fait, en science, qu'une hypothèse qui a été validée, parce que ça nous permet d'avancer dans la connaissance.
Une des différences entre la théorie et l'opinion, par exemple, nous recevions hier Marc Lachaiseret pour une émission sur la gravitation. Donc, si on monte dans un avion et qu'on survole donc un pays, le fait de croire ou non à la gravitation n'empêche pas le fait de rester en l'air. Si l'avion s'écrase, ce n'est pas parce qu'on ne croit pas à la théorie de la gravitation. Donc, cette théorie de la gravitation, ce n'est pas qu'une théorie comme une opinion, donc c'est ça que vous expliquez.
Oui, et puis j'avais envie de dire la preuve que c'est solide, c'est que ça marche. Enfin, je ne sais pas, quand on utilise tous les jours, il y a des millions de personnes qui utilisent le GPS, et le GPS vérifie la théorie de la relativité, les horloges atomiques qui sont embarquées dans les satellites, c'est des purs produits de la physique quantique, et ça fonctionne.
Vous dites aussi, alors, ce qui est très important, la science, le mot science peut avoir plusieurs significations. On englobe souvent dans le mot science des choses qui, en fait, sont assez différentes. La communauté des chercheurs, les méthodes, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cela?
Oui, c'est Alan Sokal et Jean Bricmont qui sont physiciens, qui en ont parlé, c'était dans les années 90, dans leur ouvrage un peu surintellectuel. Et c'est vrai qu'il faut faire la distinction entre... quatre sens en fait du mot science. Le premier qu'on a en tête, c'est un ensemble de connaissances. Scientia, ça veut dire la connaissance. Mais la science, c'est aussi la communauté des gens qui la pratiquent, donc les scientifiques. La science, ça peut aussi renvoyer aux applications technologiques, par exemple le DVD, la machine à laver, le GPS dont on parlait tout à l'heure. Et puis enfin, la science, c'est aussi une méthode, une méthode rigoureuse, une démarche.
Et ce qu'on disait au début, donc c'est cette communauté des scientifiques, par exemple, avec ces brebis galeuses, ces gens qui sont dévoyés, peuvent être justement critiquables à plusieurs égards, mais ça n'est pas ça qui remet de la science en tant que méthode. Donc souvent, il y a une confusion entre ces différents sens de la science.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, à titre individuel, bien sûr que les scientifiques, ils ont pas une meilleure morale que les autres, ou ils sont pas plus vertueux que les autres, mais ce qui va faire la différence, c'est que la science, c'est un collectif. Donc oui, il y a des scientifiques qui sont véreux, comme dans tous les métiers.
Voilà.
Ils
mais
sont
il y a aussi des applications. Et disons que la méthode scientifique, c'est une méthode a priori totalement désintéressée. Mais il y a aussi des applications des technosciences qui, elles, sont critiquables. Et c'est aussi une des raisons qu'on entend citer à l'égard, disons, à propos de la méfiance à l'égard de la science, c'est-à-dire dire, voilà, par exemple, la science, c'est la bombe atomique, la science, c'est la pollution chimique, mais vous prenez soin de faire la différence entre la science en tant que méthode et la science en tant que technoscience qui aboutit à des applications, c'est-à-dire la science et la bombe atomique, quelles sont les relations
Bah oui, c'est vrai que si on amalgame les deux, on arrête la recherche fondamentale, ce qui serait absolument dramatique, je pense, pour relever tous les défis sociétaux qui nous attendent là au 21e siècle. Donc, il faut faire attention à ne pas mélanger les deux. Et oui, il y a des applications de la science qui peuvent être critiquables, comme la bombe atomique. Mais alors là, est-ce que ce sont les scientifiques qui sont responsables? Il faut quand même savoir que les applications, les usages de la science, c'est la société qui décide ce qu'on fait des applications de la science, hein, par le biais des politiques qui sont élus démocratiquement. Donc on peut, dans le cas de la bombe atomique, c'est vrai, ça engage quand même la responsabilité de ceux qui collaborent à la production de la bombe atomique.
Oui, ça ne sont pas que des oies blanches. Les chercheurs doivent chercher des financements et même s'ils font de la recherche fondamentale, totalement désintéressée, détachée des applications, parfois ils savent aussi à quoi cela peut servir.
Oui, mais ça engage en fait leur responsabilité de citoyen. C'est pas vraiment la responsabilité là, de scientifique, c'est comme tout autre citoyen. Effectivement, ils engagent leur responsabilité là-dedans.
Mais alors, il y a aussi autre chose, c'est ce principe de précaution. S'il y a un risque, souvent on dit voilà, il ne faut pas se lancer dans des applications, mais en même temps, c'est totalement légitime parfois, mais dans d'autres cas, cela peut paralyser toute recherche. C'est-à-dire, si on savait, par exemple, le nombre de morts que la voiture aurait entraîné, on n'aurait peut-être jamais inventé la roue, si on avait appliqué ce principe de précaution d'une façon totalement radicale. Donc, le principe de précaution, c'est quelque chose qu'il faut utiliser avec un certain équilibre.
Oui, tout à fait. Et alors, il y a deux exemples qu'on peut donner, le cas des OGM et puis le cas du vaccin contre l'hépatite B. Je vais commencer par les OGM. Le fait que certains, peut-être, consommateurs n'en veulent pas dans leur assiette parce que ça ne correspond pas à leur goût, c'est tout à fait légitime de s'exprimer là-dessus. Par contre, il ne faut pas que ça bloque, que ça entrave, en fait, la recherche fondamentale sur les OGM qui a permis quand même de produire un nombre de médicaments. Il faut quand même bien savoir que les immunosuppresseurs contre les maladies auto-immunes, les anticancéreux, l'insuline contre le diabète ou l'héparine pour fluidifier le sang, ce sont des médicaments qui sont produits par des bactéries ou par des cellules animales qui sont génétiquement modifiées. Donc,
Là aussi, les OGM ne sont pas forcément tous à jeter.
Mais pas du tout. Et dans les années 90-2000, il y a eu un tel matraquage là-dessus que ça a freiné malheureusement la recherche sur les OGM concernant les applications biomédicales.
En même temps, ce matraquage, il était légitime dans le cas des agriculteurs qui, eux, ne voulaient pas cette pollution qu'ils subissaient dans leurs champs.
Exactement. Mais il faut quand même faire la part des choses. Et c'est un petit peu la même histoire. En tout cas, vous parliez du principe de précaution. La vaccination contre l'hépatite B dans les années 90, c'est une association en fait de citoyens qui a demandé au gouvernement de retirer en fait ce vaccin qui était obligatoire parce qu'il y avait une corrélation avec des cas de sclérose en plaques. Une corrélation, mais pas un lien de cause à effet. Et c'est là aussi que souvent, je parlais des biais cognitifs, on a souvent tendance à confondre corrélation et causalité. Ce qui a été dramatique, c'est que finalement, il a été retiré de la vaccination obligatoire pendant 10 ans. Et ça a contribué à augmenter à une surmortalité de 500 personnes par an.
Oui, c'est d'ailleurs pour un lien qui n'était pas, prouvé entre cette vaccination et certains décès, on a eu un effet totalement prouvé, réel, de 500 morts. Donc voilà pour une application discutable du principe de précaution. Donc la science, c'est une quête permanente du savoir. Écoutons le fameux Jean Gabin qui nous dit maintenant « je sais ».
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais « je sais, je sais, je sais, je sais ». C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, j'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris.
Jean Gabin, maintenant, je sais, donc Annabelle Kramer-Lecointre, c'est un peu une métaphore aussi de la démarche scientifique, hein, c'est-à-dire plus on sait, plus on découvre que moins on sait finalement.
Exactement, parce que en fait, la vérité, déjà, il faut savoir qu'en science, c'est pas... Enfin, la vérité, la recherche de la vérité avec un grand V, c'est pas une quête scientifique, c'est une quête spirituelle, philosophique, si vous voulez. Mais les scientifiques, ils savent bien que plus ils ont appris des choses sur un phénomène, plus il leur reste, en fait, des choses à découvrir. Et pour un scientifique, la connaissance, elle n'a pas de limite. Donc, ils savent qu'ils énoncent toujours des vérités qui sont provisoires et qui peuvent s'enrichir.
Dans votre livre, dont je rappelle le titre, La science à l'épreuve des mauvaises langues, chez Delafaux-Niesley. Vous parlez de cette métaphore du ballon. Expliquez-nous.
Cette métaphore du ballon, on imagine un ballon dont la surface est en lien avec la connaissance. Plus on en sait, plus la surface de ce ballon va augmenter, mais son périmètre aussi. Donc, ce qu'on ignore augmente également en même temps.
C'est-à-dire, en fait, la connaissance serait l'air à l'intérieur du ballon qui gonfle, mais plus on connaît, plus l'air à l'intérieur gonfle, plus la surface externe, c'est-à-dire ce qu'on ne connaît pas qui reste à découvrir, augmente aussi, en fait.
Vous l'avez mieux dit que moi.
Et donc, on n'en sort pas, en fait. Et plus on sait, plus on sait qu'on ne sait pas. Et précisément, alors, il y a des études qui ont montré que... moins on en sait sur un sujet, plus on surestime notre connaissance et on a d'assurance à en parler. C'est-à-dire, en fait, en gros, les gens qui n'y connaissent rien ont l'impression de savoir plus que ceux qui connaissent vraiment un sujet.
Oui, c'était l'ultra-crépidarianisme dont on parlait tout à l'heure et qui est basé, en fait, sur des travaux de psychologues américains. C'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger qui ont mis en évidence, en fait, ce phénomène-là.
Oui, donc c'est-à-dire il vaut mieux peut-être avoir tendance à écouter ceux qui sont plus modestes, au fond.
Tout à fait, et qui ont la compétence, la connaissance sur un sujet donné.
Nous allons bientôt terminer l'émission, mais auparavant, écoutons le grand Stephen Hawking, le physicien, donc Stephen Hawking, qui s'exprimait à propos de la religion.
Les religions ont été une première tentative de répondre aux questions que nous nous posons tous. Pourquoi sommes-nous ici? D'où venons-nous? Aujourd'hui, la science offre des réponses meilleures et plus cohérentes, mais les gens s'accrocheront toujours à la religion car elle réconforte et parce qu'ils ne font pas confiance ou ne comprennent pas la science.
ce rapport entre science et religion, donc il est très ancien, il est très complexe, hein, puisque pendant longtemps, il n'y avait pas de démarcation très nette entre la science et la religion. Et aujourd'hui, alors, on sait que ce sont deux champs d'action totalement différents, mais alors comment vous abordez ça? Et pour répondre aussi justement à ceux qui pourraient avoir tendance à confondre les deux.
Bah, ce sont des schémas intellectuels qui sont complètement différents. Ils ne se posent pas la science et la religion. En fait, on a tendance toujours à... Enfin, certains disent qu'il faut que la science et la religion se complètent, il faut qu'il y ait un dialogue. Moi, je pense que pour la construction de la connaissance, ce dialogue, il est vain. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un dialogue en fait, entre la science et la religion, parce qu'encore une fois, c'est des schémas qui sont construits totalement différemment. Par exemple, les objets d'études, ils sont... complètement différent. La science, on l'a dit, raisonne sur des entités matérielles. La religion raisonne sur des entités immatérielles, non testables.
Non testables, c'est-à-dire on ne peut pas montrer ou démontrer l'existence ou la non-existence de Dieu.
De Dieu, exactement.
Voilà. Ça n'est pas testable.
Voilà, donc la méthode, elle va être différente. Évidemment que les moyens d'investigation, bah, en science, on va pouvoir tester et on va pouvoir apporter une justification. La méthode dans la religion, bah, c'est basé sur la confiance et sur l'autorité dans les textes sacrés. La manière de formuler les questions n'est pas non plus la même. En science, on se pose la question du comment les phénomènes se produisent-ils. Dans la religion, c'est à quelle fin ? Donc il y a une idée de finalisme derrière qu'il n'y a pas en science. Et puis les réponses ne sont pas les mêmes, puisque en science, en fait, les lois sont à chercher dans la nature, dans les seules ressources de la nature, et pas dans un dieu. Parce que si c'est Dieu qui explique tout, il n'y a plus rien à chercher.
Alors s'il n'est pas Dieu, ça peut être de grands scientifiques. Alors un des premiers chapitres de votre livre, c'est « La science est une affaire de génie ». On va être donc très, très court sur cette question, mais là aussi vous remettez en question cette idée de génie, mais pourtant il y a quand même des gens comme Einstein, comme Darwin, comme Galilée qui ont apporté énormément, mais donc vous contestez cette notion-là aussi.
Ouais, moi je la conteste. Évidemment qu'il y a des gens qui sont plus talentueux que d'autres dans tous les domaines, mais je la remets en question parce que je pense que ça dessert la compréhension du fonctionnement de la science. La science, elle est collective. En fait, c'est vraiment un mythe, cette idée qu'il y aurait un scientifique ou une scientifique isolée dans sa tour d'ivoire. Les scientifiques, ils pensent ensemble, ou même les uns contre les autres. À certains moments, et ils se fondent sur des connaissances du passé. Même Einstein, voilà, quand il énonce la théorie de la relativité restreinte en 1905, faut savoir que Galilée avait déjà établi les grands principes de la relativité. Et puis ensuite, il s'est appuyé sur les équations de Maxwell, il s'est appuyé sur les travaux de Lorentz et de Poincaré, donc il n'était pas tout seul.
Voilà, lui aussi a eu des précurseurs. Donc alors, vous utilisez ce livre avec vos élèves, dans vos cours, support pédagogique ?
Je ne l'ai pas utilisé encore directement avec mes élèves. C'est plutôt dans des conférences au lycée, avec des élèves un petit peu plus grands, où on peut aller plus en profondeur sur certaines questions. Mais c'est des choses que j'aborde régulièrement dans mes cours, de manière informelle.
Donc, 10 idées reçues décryptées sur la science. Je rappelle le titre. La science à l'épreuve des mauvaises langues, aux éditions de Lachaud et Niestlé. Annabelle Kramer-Lecointre, merci.
Merci beaucoup à vous, Antonio Fischetti.
Retrouvez Autour de la question sur les réseaux sociaux et sur RFI.fr.
C'était Autour de la question. La science à l'épreuve des mauvaises langues. Pourquoi tant d'idées reçues sur la science? Avec Thibaut Baduel à la réalisation, Raphaël Pluskva en coulisses. Restez curieux, passionnés de science. Et la semaine prochaine, vous retrouverez Caroline Lachowski dans quelques instants. Les infos sur RFI.